Alors bon, présentation, donc je m'appelle Hervé Doris. Qu'est-ce que je vais vous dire? Bon, au niveau professionnel, j'ai été enseignant pendant à peu près la moitié de ma vie professionnelle. J'ai été à la fois prof de techno, mais j'ai aussi, je suis aussi professeur des écoles. Hein, j'ai deux casquettes, donc ce qui m'a valu de travailler à la fois en premier degré, en second degré, et puis ma deuxième vie de partie de vie professionnelle, ça a été des missions de direction diverses et variées. Donc j'ai été chef d'établissement d'école primaire, de collège et de lycée agricole. Donc voilà. Et du reste, j'ai pas terminé ma vie professionnelle par un lycée agricole, mais c'est le dernier établissement que j'ai dirigé et je me suis énormément plu dans l'enseignement agricole et je conseille à ceux qui peuvent d'y passer parce qu'on a des méthodes pédagogiques qui font un peu respirer alors qu'on a déjà dans l'enseignement technique, mais dans l'agricole c'est quand même assez sympa. Bon, j'ai pas tout rose non plus. Et puis ensuite, alors tout ça, oui, faut quand même préciser du perchoir où je suis, tout ça dans l'enseignement sous contrat avec l'État, c'est-à-dire dans l'enseignement catholique, hein, mais qu'on appelle aussi souvent l'enseignement sous contrat. Et puis j'ai été donc directeur de l'enseignement catholique en Champagne-Ardenne pendant 4 ans, je sais plus exactement. Voilà, donc à la fin de ma vie professionnelle. C'était une mission, comme on disait tout à l'heure à table, qui était absolument passionnante. Donc j'ai eu la chance, dans ma vie professionnelle, de faire des choses de plus en plus intéressantes, du début à la fin. Donc c'était une vie, de mon point de vue, une très belle vie professionnelle. Voilà. Et puis j'ai eu d'autres engagements à côté. Donc j'ai bien compris, il y a des gens qui appartiennent à la CAT, c'est ça?
Oui.
Alors j'ai été membre de la CAT pendant une bonne quinzaine d'années. Je suis au début des années 80 et j'ai arrêté en 1996 pour des raisons professionnelles parce que, ou 98 j'ai arrêté parce que j'avais un peu de mal de tout faire. Et j'ai fait partie pendant pas mal d'années d'une commission nationale à la CAT, mais c'est plus organisé comme ça maintenant, ça s'appelait la commission nationale de vigilance, hein, où on s'occupait de la manière dont l'État français respectait les libertés des uns et des autres. Et à cette époque-là, il y avait des réformes de la garde à vue quasiment, je ne dis pas tous les 6 mois, mais tous les ans. Donc j'étais devenu, maintenant je serais bien accompagné là-dessus, un spécialiste de la garde à vue. Voilà. Donc ça a été une période assez intéressante. Et puis j'ai d'autres engagements dans le secteur sanitaire et social. J'ai été président d'une maison de retraite j'ai fait partie du conseil d'administration d'une maison de retraite pendant une dizaine d'années. Et j'ai assuré la présidence de cette association pendant 7 ans. Et le travail principal que j'ai eu à faire, c'était de transformer, avec bien sûr l'ensemble du personnel et de la direction, mais ça a été un sacré travail de transformer cet établissement qui était un établissement, une maison de retraite classique comme on en a quasiment pu maintenant, en EHPAD. Voilà, maintenant on n'a plus que des EHPAD. Alors c'est pas si vieux que ça, mais c'était la période relativement heureuse où les EHPAD, on n'en parlait pas dans la presse, tout allait bien, il y avait du personnel, il y avait des moyens, etc. Bon, ça s'est un petit peu contracté, moi je ne suis plus, mais j'ai compris que ça s'était un petit peu contracté depuis. Hein. Et on voit bien que c'est un secteur qui devient assez difficile, hein. Tant au niveau du travail que de la qualification des personnes, que du recrutement. Hein. Bon, on ne va pas parler de ça, parce que j'étais à une réunion ce matin à Nancy, justement, où on avait abordé cette question-là, et c'est vraiment des vraies questions qui concernent tout le secteur sanitaire et social. Et puis, je suis président d'une association sur Saint-Dié, j'habite à proximité de Saint-Dié des Vosges, dans laquelle il y a à peu près 65 salariés. Et cette association a comme mission principale, enfin son activité principale, c'est d'avoir une maison d'enfants à caractère social, hein, donc tous des jeunes enfants, adolescents ou jeunes majeurs, hein, qui sont placés soit par l'aide sociale à l'enfance, soit qui font l'objet d'un placement judiciaire. Et puis on a d'autres activités tournées vers les sans-domicile fixe, vers les personnes fragilisées, très fragilisées au niveau familial. En ce moment, on fait de l'accueil hivernal, etc. Donc on a une palette d'activités assez étendue. Donc ça m'occupe pas mal. Et enfin, c'est pour ça que je suis là ce soir, j'appartiens à un mouvement, c'est pas une association, ça s'appelle un mouvement, qui s'appelle Pax Christi, alors que certains connaissent ou ont connu dans le temps, hein, parce que souvent on a des souvenirs comme ça de Pax Christi il y a un certain nombre d'années. Comme l'association a été fondée en 1945, le latin dans l'Église catholique était encore assez utilisé, n'est-ce pas? Et donc on avait encore hein, ceux qui sont de confession catholique jusqu'à et qui allaient à la messe avant 1961-62 avaient encore tous les offices en latin. Hein. On ne comprenait pas tout ce qui se racontait, mais enfin. Et donc ça s'est appelé Pax Christi. Alors maintenant, quand on dit des fois Pax Christi, les gens pensent que nous sommes peut-être un peu intégristes. Bon, hein, parce que c'est un nom latin. Or, ce n'est pas trop l'esprit de la maison, hein, je vous rassure tout de suite, mais c'est comme ça. Voilà. Alors, je disais un petit peu, je me suis engagé à Pax Christi après être en retraite, parce que je suis dans ma cinquième année de retraite. Et après l'ACAT, hein, qui intervient auprès des prisonniers, donc dans des situations souvent d'urgence, difficiles, etc. Hein. Je ne sais pas si vous dites encore ça, mais quand j'y étais, on disait souvent qu'on était un peu une association pompier parce qu'on intervenait quand il y avait le feu. Je me suis dit, comme j'aurais le temps de me réengager ailleurs, je vais essayer, c'est une illusion, je vais essayer de m'engager dans une association qui travaille plutôt en amont des problèmes qu'en aval. Mais je crois qu'il faut faire les deux. De toute façon, les deux sont absolument indispensables. Donc c'est pour ça que je me suis retrouvé à Pax Christi, parce que j'avais gardé une bonne idée de Pax Christi quand j'étais élève. Hein. C'était la grande période de la réconciliation franco-allemande, et l'établissement scolaire dans lequel j'étais c'était à Nancy, avait fait un jumelage avec un lycée public de Trèves, et ce qui fait que toutes les vacances, si on n'était pas en Allemagne, c'était les Allemands qui étaient là. Voilà. Et donc voilà, donc il y avait des liens avec Pax Christi, donc voilà. C'est comme ça que moi j'ai connu Pax Christi et que je pense que c'est essentiellement pour ça que j'y suis aujourd'hui, parce que j'aurais peut-être pas connu. Voilà. Bon, je ne sais plus trop parler allemand. J'avais un assez bon niveau, mais depuis très très longtemps que je n'ai pas pratiqué, ça devient un peu difficile. Voilà. Alors effectivement, le dialogue, bien, le sujet est vaste. Alors comment est-ce qu'on le cerne? Voilà. Alors moi, je vais parler de mon perchoir de chrétien catholique, parce que j'ai bien compris que j'avais un peu quand même cette étiquette-là dans votre succession de conférences. Et par rapport à ce qu'on vit à Pax Christi, ce qu'on pense, et ce que j'essaye de réfléchir moi-même, je vais vous présenter voilà, ce que j'ai pensé pour ce soir. Hein. Sachant que ce que je vais vous présenter, ça m'a pris un certain temps parce que j'avais des trucs à remettre en forme, voilà, un peu de documentation, etc. Mais ça m'a énormément intéressé dans le sens où ça m'a permis de rassembler des morceaux qui n'étaient pas forcément rassemblés toujours comme je voulais. Bon, voilà. Et c'est vrai que quand on fait des interventions, donc c'est pour ça que je vous remercie de m'avoir proposé ça, parce que ça force à travailler, hein, qu'on ne le fait pas forcément toujours, ou on remet, ou on se dit on va faire un petit bout, voilà. Donc ça force à le faire. Et c'est pareil quand je fais, dans le cas de Pax Christi, des formations dans des établissements scolaires ou dans des directions de CNN, etc. Ben, c'est un peu le même processus. Ça vous fait sortir un petit peu de votre ronron et ça vous oblige à bosser un petit peu. Donc ça, c'est pas mal. Voilà. Alors, je vous parlerai de Pax Christi tout à l'heure ou à la fin, parce que bon, c'est intéressant, mais il n'y a pas que, quoi. Hein. Bon. Après, j'ai une petite documentation, si ça vous intéresse. Et bien, il y a surtout un site, comme dans beaucoup d'associations, où on peut trouver un certain nombre de renseignements. Voilà. Alors, il y a un plan hein, pour qu'on essaye de s'y retrouver. Et puis, je tenais absolument à avoir un vidéoprojecteur. C'est pas que j'ai des choses extraordinaires... Je ne vais pas vous faire voyager, je ne sais pas trop où, mais pour autant, ça permet quand même de maintenir l'attention hein, et de s'y repérer un peu. Hein. Bon, voilà. Alors, une première partie où je me suis intéressé un petit peu, de quoi parlons-nous quand même quand on parle de dialogue, il faut quand même peut-être qu'on précise un peu les choses, alors que peut-être que les gens qui m'ont précédé l'ont fait aussi, mais ça je ne sais pas. Enfin, chacun le fera à sa manière. Donc avec deux étapes là-dedans, communication et dialogue, et puis deux éléments qui m'ont paru pour moi, ou qui me paraissent pour moi, mais depuis longtemps, et dans ma recherche ou ma vie intérieure, qui me paraissent fondamentales, si vous voulez, pour que le dialogue puisse fonctionner. Hein. Donc ce que je vais vous présenter, c'est peut-être à la fois, je ne sais pas si c'est un peu théorique, mais enfin c'est des choses qui m'habitent personnellement. Quoi. Voilà. Après j'essaye de le mettre en place. Une deuxième partie qui est l'Église catholique et le dialogue. Hein, parce que voilà, ça c'est quand même. Y a quand même des questions. On peut se poser des questions. Et dans le. Je suis allé rechercher un petit peu dans Vatican II. Hein. Alors bon, c'est des choses connues, plus ou moins connues. C'est le Concile, ça a quand même quelques années. Hein, c'est des documents qui ont été publiés dans les années 60. Hein, mais. Je vous donne un exemple très concret qui montre que si tout ce boulot-là n'avait pas été fait, on n'en serait pas là aujourd'hui et on serait sûrement pas là ce soir. Voilà. La pensée sociale de l'Église, alors ça, excusez-moi, c'est un de mes petits dadas, hein, et voilà, mais c'est un élément absolument pour moi incontournable si on a envie de faire des choses ensemble. Les niveaux de dialogue, bon ça c'est plus classique. Et puis une troisième partie quand même, non pas, je ne ferai pas les adhésions à Pax Christi en sortant, hein, rassurez-vous, hein, c'est pas ça. Enfin, je vous présenterai un petit peu l'association, mais c'est de voir justement comment ça s'articule avec ce qui précède. Hein, voilà. Donc un petit point historique, la démarche et puis les cinq domaines. Dans lesquels nous intervenons, hein, sachant que nous n'avons pas le monopole de la promotion de la paix, et heureusement du reste. Voilà. Alors, sur la première partie, sur la communication, voilà, je me suis dit, bon, si on distingue communication, dialogue, vous voyez, l'association dont je suis président, j'ai discuté en voiture tout à l'heure avec la directrice. Bon, moi je suis président depuis 7-8 mois. D'accord. Bon, je commence quand même j'étais au conseil d'administration avant quand même. Je commence à bien descendre un peu dans les réalités. Et je disais en fait, bon, pour finir, c'est une association dans laquelle on communique pas, ou très peu, ou mal. Alors en même temps, c'est éclaté géographiquement, c'est un peu compliqué. Hein. Et puis deux, c'est en plus, mais c'est la suite, c'est une association dans laquelle on dialogue assez peu. Voilà. Voilà. Alors on est en train d'essayer d'y remédier. Bon, je pourrais vous donner des exemples. Donc, si on prend la communication, pour commencer, pour essayer de s'y retrouver, bon, on va dire que la communication, c'est un échange d'informations. Je ne vous apprends rien en vous disant ça. Hein. On pourrait dire, J'étais très gêné, du reste, en préparant, parce que je me suis dit, comment je vais me débrouiller avec l'auditoire? D'abord, est-ce que c'est un auditoire ou pas? Si c'est un auditoire, ce qui est le cas, on est dans quelque chose de frontal, je suis plutôt dans un acte de communication. Hein? Mais je me suis dit, alors comme je ne savais pas combien vous seriez, comment la salle était fichue, comment vous avez l'habitude de procéder, je me suis dit, est-ce qu'on organise quelque chose qui ressemblerait à un dialogue? Parce qu'après tout, pour parler du dialogue, il faut peut-être se mettre en... Bon, je ne fais pas parce que c'est quand même un petit peu compliqué et je ne savais pas quel était le format. Donc, en ce moment, sûrement que toutes nos cellules sont en train de communiquer, se donner des informations sans arrêt, sinon on serait déjà écroulé sur notre chaise. Hein. On dit que les plantes communiquent, que les arbres, ma femme m'a expliqué il n'y a pas longtemps, la communication des arbres entre eux, moi j'ai trouvé ça assez extraordinaire, c'est pas une spécialiste, hein, mais ça l'avait intéressé. Hein. Et puis nous, on n'arrête pas de communiquer. Bon, monsieur qui travaille dans un établissement scolaire, peut-être qu'il a reçu ce matin une circulaire de son chef d'établissement qui lui donnait un certain nombre d'informations, etc., etc. Bon. Donc la communication, elle est au mieux, elle est horizontale, hein, mais très souvent, elle est relativement asymétrique. Hein. C'est un petit peu, quand on est dans une communication frontale, par exemple, on est un peu dans une communication asymétrique. Bon. Et la symétrie, elle peut être relativement importante. Hein. Par exemple, la publicité, c'est une communication asymétrique, mais on cherche quelque part à me conditionner, ou alors peut-être pas à me faire acheter tel ou tel produit, encore que ça fait partie du jeu, hein, mais à me faire considérer que j'ai absolument besoin d'avoir dans ma poche un téléphone portable. Hein, voilà. Peut-être pas sur le choix du téléphone, mais au moins, hein, voilà. Bon. Donc il y a un conditionnement, hein, qui peut être fait au niveau de la publicité. Et il y a par exemple, on peut très bien aussi considérer une asymétrie qui devient une coercition. Hein. La propagande politique, on va parler que du siècle passé, on ne parlera pas du 21e siècle, hein, mais les régimes fascistes, autoritaires, etc., ont été des spécialistes de la propagande et de l'exercice de la coercition. Hein, vous voyez? Donc, ça peut être horizontal parce qu'on a besoin de s'échanger des informations entre collègues pour travailler, hein, mais ça peut être aussi complètement asymétrique. Hein, voilà. Donc, on peut être dans un rapport qui est dominant-dominé. Hein. C'est quand on est enseignant, hein, on a des méthodes d'enseignement qui évoluent, heureusement. Hein. Mais très souvent, on a des enseignants, hein, qui sont, des fois ils ont quelques années, ils n'ont pas trop renouvelé leur méthode de travail, hein. Ils se retrouvent dans une méthode un peu frontale comme on est aujourd'hui, et ils éprouvent un certain nombre de difficultés, hein, à faire passer leur message. Hein. Voilà. Donc, parce que ben, justement, il y a cette dissymétrie, hein, et maintenant on est plus en train de travailler ou de promouvoir en sorte l'activité des élèves et pas forcément l'activité du prof, bon, ou du conférencier. Hein. Dans ce que vous me disiez tout à l'heure à table, moi j'entendais dans la réforme des BTS, etc., hein, et du bachelor, comment est-ce que les élèves vont travailler plus entre eux, hein, et comment est-ce qu'on va... C'est ça qu'il faut regarder aussi. Hein. Comment ils vont être plus acteurs et ils vont être moins dans une communication, dans un enseignement. On voit bien l'évolution, bon, c'est pas notre sujet, mais l'évolution d'un certain nombre de campus, hein, qui fonctionnent comme ça maintenant. Alors, on a la communication non violente. Alors là, moi je ne suis pas un spécialiste du tout de la communication non violente, je devrais l'être, il y a peut-être des gens qui le sont dans la salle. Oui, non? Un peu? Voilà. Bon. Alors, vous me contredirez, hein, si je dis des erreurs. Alors, ce que j'ai remarqué quand même, c'est que c'est pour ça que j'avais mis ça là, c'est que la communication non violente, elle est à l'articulation entre la communication et le dialogue. Hein? Que ce n'est pas que de la communication. Hein? J'ai bien compris qu'on avait, au niveau de la communication non violente, avec le, comment dirais-je, l'attitude, enfin, de ce que j'ai lu, parce que là c'est l'ivresse, l'empathie, hein, qui est la capacité à comprendre les émotions d'autrui, mais aussi pas à comprendre aussi que ces émotions, mais aussi la manière dont ils fonctionnent, etc. Bon. Moi, j'ai lu ça comme une méthode, en fait, de résolution de problèmes. Hein, c'est-à-dire que il y a une expression des émotions, des réalités, une analyse, on pose des solutions et le sujet élabore, fait son parcours. C'est un peu ça ? Eh bien, merci bien. Donc, je vois. Alors, l'analyse, la méthode de résolution de problèmes, ça, j'ai déjà utilisé ça pas mal, en particulier en formation. Bon. Donc, deuxième partie de cette morceau, c'est le dialogue. Alors, qu'est-ce que j'ai mis ici ? Ben voilà, le dialogue. Bon. Alors, moi, ce que j'ai relevé qui était important, c'est que dans le dialogue, il y a une parole. Parce que s'il n'y a pas de parole, ça devient un peu difficile. Alors, évidemment, des fois, on dit, oh ben, suffit de se regarder, on s'est compris. Bon. Alors, c'est une façon de dialoguer aussi, mais ça veut dire que sûrement, si on s'est compris, c'est qu'on avait quand même causé avant. Hein? D'accord ? Bon, peut-être que les vieux mariés se regardent, ils se sont compris, mais il y a eu tout un dialogue qui a duré des années, des années, des années, peut-être, hein? Voilà, qui fait qu'ils peuvent se comprendre des fois sans se parler, mais c'est du dialogue, mais... Mais il y a quand même, et ça c'est quand même fondamental au niveau de la personne humaine, il y a un dialogue. Donc si je suis capable, il y a une parole, et si je suis capable de parler avec autrui, là je suis plus dans une communication asymétrique, c'est ça qui change, hein, qui est quand même fondamental, c'est que je vais reconnaître l'autre comme une personne, c'est pour ça que j'ai dit égale dignité entre les personnes. Donc il ne peut pas y avoir de dialogue, s'il n'y a pas d'égale dignité entre les personnes. Ce qu'on pourra dire aussi, c'est qu'à ce titre-là, alors, pour ce qui me concerne, chacun appelle ça comme il veut, pour moi, j'établis une relation spirituelle, c'est une relation spirituelle que j'établis avec l'autre. D'accord ? Alors, ce n'est pas spirituel au sens qu'on peut l'entendre avec un aspect peut-être religieux, pourquoi pas, mais pas que. Hein. Moi, je considère que je considère que tout est spirituel. Je ne sais pas ce qui n'est pas spirituel, hein, à partir du moment où on essaye de sortir un petit peu de soi-même. Voilà. Donc ça, c'est le deuxième point. Troisième point, ça demande un effort de pensée. Hein, parce que là, on est bien, effectivement, dans la rencontre, dans la compréhension de l'autre. Hein, et donc, il faut qu'on puisse à la fois rentrer dans ce que l'autre me raconte, mais il faut aussi que je sois capable de penser ce que je dis. Et ça, c'est pas forcément... c'est un vrai enjeu, hein, cet aspect-là. Quatrième point que j'ai noté, nécessité de suspendre son jugement. C'est-à-dire, bon, on va y revenir après, mais il faut que je reprenne du recul par rapport, hein, à ce que je pense, ce que je souhaiterais affirmer, sinon ça va être un petit peu difficile. Ou alors, on va parler d'un dialogue de sourds. C'est une expression qu'on emploie couramment. Hein. Ben, le dialogue de sourds, c'est effectivement le dialogue où on ne s'écoute pas, hein, et où chacun essaye d'affirmer ses positions. Hein. Voilà. J'ai regardé il y a 2-3 jours, enfin, une émission à la télévision, ça se passe sur la 5, le soir, où ils rediffusent des émissions qui ont lieu en début de soirée. Voilà. Et il y avait un journaliste dont je tairai le nom, bien connu, qui était invité à cette émission. Et alors que les deux personnes qui étaient en charge de le faire parler, de l'interviewer, d'avoir un échange et un dialogue avec lui, ont été infoutus de pouvoir placer un mot. C'est-à-dire que la personne avait un message à délivrer, ça a duré 5-10 minutes, alors tout le monde était extrêmement mal à l'aise sur le plateau, impossible d'interrompre, la logorée étant tellement puissante, rapide, etc. Et alors quand ça s'arrête, quelle joie, hein, d'abord on ne sait plus ce qui a été dit, hein, et c'est, bon, non mais comprenez ce que je veux dire. Voilà, donc il y a quand même une question, voilà, de savoir se décentrer. Je parlais tout à l'heure d'une déclaration conciliaire du Concile Vatican II qui s'appelle Nostra Aetate, et dans l'introduction de cette déclaration conciliaire, voilà, c'est pour ça que j'avais repris cette expression, il est indiqué qu'il faut suspendre son jugement, j'ai trouvé ça amusant comme formule, hein, elle vaut ce qu'elle vaut, mais enfin voilà, suspendre son jugement le temps de comprendre l'autre. Voilà, j'ai trouvé que c'était intéressant. Et le dialogue, alors, aussi extrêmement important, on le reviendra par la suite, hein, demande que je ne me revendique pas, hein, comme la mesure du vrai et du bien, parce que alors là, c'était un peu le cas de notre journaliste que j'ai regardé à la télévision, il était dans la vérité. Donc si je suis dans la vérité, ça devient extrêmement compliqué. Bon, c'est pour ça qu'on parlera de la question de la vérité tout à l'heure, parce que c'est une question, hein, qui est extrêmement importante. Voilà. Donc, égale dignité des personnes, relations spirituelles entre elles, nécessité de faire un effort de pensée, nécessité de suspendre son jugement.
La dernière phrase est repartie.
Et je vais la remettre. Je vais la remettre, d'accord. Ne pas se considérer comme la mesure du vrai et du bien. Hein. Et donc, la dernière phrase, la voilà. Lorsqu'on dialogue, on donnera un exemple tout à l'heure qui concerne deux religions qui sont représentées ici. Le dialogue va supposer ou reposer, hein, sur un postulat qu'il y aurait une raison commune aux hommes, une sorte de transcendance universelle, au risque de rester dans l'incompréhension et dans le rapport de force. Je rappelle que le postulat, c'est un principe indémontrable, mais dont nous avons besoin. Bon. L'égale dignité de la personne humaine, ben, c'est pas forcément... Le fruit, nos traditions religieuses nous amènent à l'égale dignité de la personne humaine, hein, nos traditions philosophiques, mais on voit bien que c'est remis en cause, il suffit d'ouvrir le journal et d'écouter la radio ou de regarder la télévision, donc on voit bien que c'est pas aussi facile que ça. Hein. Donc c'est quelque chose qu'on est, si on n'admet pas l'égale dignité des personnes, il y a beaucoup de choses qu'on peut plus faire. Alors la transcendance, c'est pas forcément la transcendance, elle peut peut-être être vers le haut, mais elle peut être aussi vers horizontal, c'est-à-dire un horizon commun qu'on peut imaginer, voir se dessiner, s'élaborer. Hein, c'est ça que je veux dire. Hein, mais c'est quelque chose qui n'est pas nous, qui n'est pas moi qui parle, qui n'est pas la personne qui est en face. Hein. En fait, on retrouve une triangulation dans le dialogue. Alors je parle du dialogue de deux personnes, mais on pourrait dialoguer tous les gens qui sont ici. Hein. Mais il faut bien qu'on ait en fait une médiation. Si on n'a pas cette médiation, on va avoir du mal de parler. Et j'ai trouvé une belle phrase Alors, avec le langage de l'époque, de saint Augustin, 4e, 5e siècle après Jésus-Christ, donc un évêque originaire de l'Afrique du Nord, hein, c'est ça? Quand nous voyons l'un et l'autre que ce que tu dis est vrai, quand nous voyons l'un et l'autre que ce que je dis est vrai, et ça c'est une expérience qu'on fait extrêmement, je trouve, ça m'a intéressé cette citation parce que souvent quand on regarde des gens débattre, des fois qu'ils ne sont pas d'accord, et on se dit, mais punaise, les deux ont raison. Hein, c'est quand même très souvent le cas. Hein, on s'oppose, mais en fait les deux ont raison. Bon. Alors, ce que tu dis c'est vrai, ce que je dis c'est vrai, où le voyons-nous, je te le demande. Assurément, ce n'est pas en toi que je le vois, ce n'est pas en moi que tu le vois, nous le voyons tous les deux dans l'immuable vérité, c'est beau, qui est au-dessus de nos intelligences. Hein. Alors, c'est du style de saint Augustin, hein, mais voilà, ça veut dire que on est obligé de se projeter dans quelque chose si on veut dialoguer. Et on le verra tout à l'heure, avec un événement qui s'est passé juste il y a un an, le 4 février, hein, et qui nous concerne de près ici dans cette salle. Ça va jusque-là? Bon. Voilà, alors un petit. Voilà, moi j'ai essayé de définir un petit peu, éclairer la notion de dialogue par rapport à la notion de communication. Hein, et la question du rapport, hein, de l'altérité. Voilà, ça c'est extrêmement important. Et vous voyez, par exemple, dans, comme je disais, il faut donner des exemples. Mais comment est-ce qu'on construit la paix? C'est comme ça. Dans l'association dont j'ai la présidence, pas la responsabilité à moi tout seul, mais je suis quand même assez exposé. Hein, comme beaucoup d'entreprises, d'associations, d'établissements scolaires, alors ça a des creux, des bosses. Hein, alors là, il y a eu un gros creux, hein, très compliqué, hein, beaucoup de problèmes sociaux, de gens qui sont allés au prud'homme, ça a dû coûter extrêmement cher à l'association, etc. Enfin, bref, il y a eu un temps de malaise, mais voilà, il y a la pierre achetée à personne, ça arrive. Moi, j'ai vu des établissements scolaires qui, des fois, étaient dans un état absolument lamentable, hein, parce qu'il y a eu un concours de circonstances où le directeur a pas fait son boulot, les salariés ont fait un peu n'importe quoi, chacun dans son coin, et puis à un moment, tout part en morceaux. Et... Bon. Il y a un enjeu, comme je disais tout à l'heure, dans cet établissement, à la fois de faire en sorte que ça communique, que les informations passent, hein, entre les services, entre les personnes, entre la direction, les personnels, etc. Et il y a un enjeu majeur de paix sociale, que les personnes dialoguent entre elles. Alors, Eureka, on met en place une de nos obligations qui n'avait pas été mise en place depuis des lustres, qui est de mettre en place un projet associatif. Et on va pouvoir, au travers de ça, faire bosser les salariés entre eux d'une façon qui n'est pas hiérarchique, et on va pouvoir se donner des objets de travail en commun, dans une structure où il y a deux établissements et trois services différents sur des lieux différents. Donc ça ne facilite pas non plus les affaires. Bon. Vous comprenez ce que je veux dire? Et l'autre fois, en discutant avec des salariés, tout d'un coup, ils disent, ah bah oui, tiens, on s'aperçoit que les jeunes qui sont en autonomie, qui sont dans les appartements, les jeunes majeurs, etc., c'est un de ces cafarnaum là-dedans. Il y a des déchets, ils trient rien, enfin, bon. L'association s'aperçoit, quand même, 65 salariés, je sais pas combien il y a d'ailleurs endroits ou de gens qui fréquentent l'association toutes les semaines. La question de l'écologie, ça n'a jamais effleuré l'association avant la semaine dernière. Bon. Tiens. Ben, peut-être que, je sais pas si c'est le bon objet de travail qu'il va falloir se choisir, hein. Et voilà un objet de travail qui peut donner de la transversalité, qui peut permettre aux gens de dialoguer entre eux et de construire quelque chose. Vous comprenez ce que je veux dire? Bon. Alors, toujours dans la première partie, ce serait le petit B, j'ai pas fait petit A, petit B, petit 1, petit 1. Bon. Deux conditions essentielles de mon point de vue, mais vous avez peut-être un autre point de vue, hein, qui permettent le dialogue. Alors je dirais que c'est des choses plus, à la fois partagées, pour moi, partagées par toute l'humanité, puis en même temps qui peuvent être très intérieures. Hein, très, voilà. Alors, première chose, s'affranchir de nos déterminismes, de nos représentations, de notre biologie, de tout ce qui nous fait coller par terre, qui fait qu'on n'arrive pas à se... Hein, voilà. Bon. Peut-être que si on est là ce soir, c'est qu'on a justement un petit peu envie de sortir, les uns et les autres, hein, et puis moi qui fais un peu le boulot aussi, de nos conditionnements, de nos déterminismes, de nos histoires, etc. etc. Alors, comme je suis chrétien catholique, etc., donc de mon perchoir, je ne vais pas vous embarrasser avec l'évangile, mais j'ai pris deux citations hein, pour mes deux points ici. La première citation, c'est dans l'évangile de Jean, chapitre 3. Hein, alors Jean, il rencontre, c'est ce qu'on appelle l'entretien avec Nicodème. Hein, alors Nicodème, c'est un notable juif, hein, c'est quelqu'un qui s'interroge, hein, il se pose des questions, puis alors le personnage de Jésus l'interroge, etc. Donc il vient le voir nuitamment, parce que bon, il y a quand même la communauté, il faut, voilà, bon. Donc il vient le voir de nuit, voilà. Et puis, voilà, il discute, etc. Puis le Christ lui dit, alors j'ai pas pris toute la citation, mais voilà, si tu veux, comment dirais-je, ben, participer au royaume de Dieu, etc. Je sais plus exactement, j'ai pas mon évangile ici. Voilà, il faut renaître de nouveau. Et le Nicodème, alors on pense qu'il est vieux, mais on n'est pas sûr qu'il soit vieux, mais peut-être qu'il est vieux. Hein. Il dit comment un homme, oui, quand il est vieux, peut-il naître à nouveau? Oui, non. Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Voilà. Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Alors moi, effectivement, quand j'étais gamin, que je lisais ou qu'on nous lisait ce passage, je me disais, punaise, c'est quand même pas simple ce truc-là. Hein, voilà. Bon. Alors, première chose, il faut s'affranchir de la question de l'âge. Hein. Donc je peux être vieux à 5 ans, à 10 ans, à 15 ans, ou à 70 ans, hein, voilà. Ou pas trop, hein, ou essayer de pas trop l'être. Alors, je sais pas, peut-être que certains connaissent un grand spirituel du XXe siècle, qui était aussi théologien, philosophe, et suisse de surcroît, donc on n'est pas trop loin, qui s'appelle Maurice Lindel, hein, voilà, ça vous dit quelque chose, hein. Il y a des adeptes, hein, de Maurice Lindel, voilà. Et alors, bon, moi c'est un, comment dirais-je, je n'ai pas tout lu de Maurice Lindel, mais... J'en ai déjà lu un petit peu, et je lis et je relis. Alors, il y a des choses qui sont assez accessibles, puis des fois, il y en a qui sont un petit peu moins. Hein. Voilà. Et alors, je prends cette phrase de Maurice Lindel, que j'aime bien, qui est un peu une phrase de provocation, quelque part, hein, qui est de dire, bon, est-ce que nous serons encore en vie avant la mort? Hein? Est-ce que nous serons encore en vie avant la mort? Donc, ça veut dire qu'effectivement, on pourrait sûrement mourir avant d'être mort. C'est ça que ça veut dire. Hein? Bon. Faut que je me retrouve un peu dans mes notes, là. Alors, Lindel. Oui. Et, comment, alors, voilà. Et je vais vous reprendre, j'ai pas noté ici, hein, une citation de Lindel. Pour Lindel, si vous voulez, on a à passer d'objet à sujet. Hein, c'est-à-dire, un, premièrement, on n'a pas demandé d'arriver sur la planète. Hein, il y en a qui ont pensé avant, mais nous, on n'a rien demandé. Hein. Et donc, on arrive avec une biologie. Hein, comme il dit, on a un grumeau cosmique, on est composé de tous les éléments qui composent l'univers. Hein. Du reste, on est très en lien avec l'univers. Des fois, on l'oublie un petit peu, et avec les astres, etc. On est dépendant de tout le cosmos, hein, même si on le sent pas tous les jours. Et je le sens pas en ce moment quand je vous parle, mais enfin, malgré tout. Bon. Voilà. Et puis, on a une histoire, on était déterminé par une histoire, par des conditionnements, par le pays où on habite, par la civilisation dans laquelle on est, etc. Voilà. Donc il y a tout ça. Voilà. De tout ça qui n'est pas forcément négatif, hein, mais qui fait de nous des choses qu'on reçoit plutôt des objets. Ce que dit Zindel, c'est plutôt un mouvement de libération qu'on a à avoir, à faire, mais ça c'est le travail d'une vie, hein, qu'on fait tous les uns les autres, peu ou prou, hein, de se libérer, hein, de toutes ces attaches et de tout ce qui va nous permettre, hein, ou de ne pas nous permettre justement de rencontrer l'autre, et éventuellement pour des gens qui appartiennent à une confession religieuse ou à une autre, d'être ouverts au divin. D'accord ? Et je reprends cette phrase des Zindel qui est un petit peu longue, mais qui est assez intéressante, hein, où il dit, c'est pas un jugement des personnes, hein, mais il dit l'immense majorité des hommes, on peut se mettre dedans, hein, parce que on fait pas le boulot tous les matins non plus, hein, bon, ne remettent pas en question leur moi. Ils prennent leur moi pour argent comptant. Ils ont dit je et moi depuis l'âge de 2 ans ou 3 ans, avant d'avoir rien choisi du reste. Et c'est toujours sur ce « je » et ce « moi » préfabriqué qu'ils posent les fondations de leur vie. C'est toujours avec de ce « moi » infantile, autour de ce « moi » pardon, infantile, que se nouent leurs revendications, et ils défendent, bec et ongles, un « moi » qui leur est tombé dessus, dont ils ne sont nullement les auteurs, et qui, au contraire, les limite dans leur croissance et sont un obstacle essentiel à la constitution de leur personnalité. Voilà. Ça vous paraît violent comme phrase, peut-être. Voilà. Mais je crois que effectivement, moi je me disais par exemple, moi c'est une question qu'on se pose, que je me suis souvent posée, qui est-ce que je rencontre naturellement? Bon, j'ai été enseignant, vous voyez, ce matin j'étais dans une réunion à Nancy où il n'y avait que des directeurs de grosses structures sanitaires et sociales et que des présidents de grosses associations. Bon. Ben, quand on est... Voilà, vous comprenez ce que je veux dire? On peut rencontrer que des types de personnes. Si je suis enseignant, je vais rencontrer que des enseignants. Si je suis membre... si je travaille chez Peugeot, sûrement qu'il y en a qui travaillent chez Peugeot par ici, je risque de rencontrer beaucoup de gens de chez Peugeot qui ont... voilà, etc. Bon, donc, la vie fait aussi qu'on a des cloisonnements, hein, qu'on n'a pas forcément recherchés, mais qui font que ça fonctionne quand même. Bon, comment est-ce qu'on... Hein, alors, voilà, comment je suis attentif, hein, à rencontrer d'autres personnes, hein, à m'ouvrir à d'autres milieux, etc., etc. Hein? Voilà, c'est ça, quand on dit de s'affranchir un petit peu, mais je peux rester d'une façon extrêmement confortable, et je pense que je pêche tous les jours de ce côté-là, par rapport à cet exemple-là. Hein? Voilà. Bon. Quand le pape François nous dit qu'il faut aller aux marges, hein, et pas rester confortablement... dans notre paroisse, je crois qu'il ne dit pas autre chose. Hein? Bon. Donc, je reprends une autre citation de Zindel. Hein? La seule question qui reste ouverte est, l'homme peut-il exister? Peut-il émerger de cette jungle interne et externe dans laquelle on se débat tous, les uns et les autres, tous les jours? Peut-il se libérer de son moi instinctif? Peut-il cesser de subir? Peut-il devenir source et origine, ça c'est les deux grands mots de Zindel, d'un moi valeur qui fonderait sa dignité en faisant de lui un bien universel? En un mot, l'homme peut-il se faire homme? J'ai été extrêmement troublé en lisant Zindel à un moment donné, quand il dit que quand on n'est pas homme. Et moi, je me dis qu'il y a beaucoup de choses qui se résoudraient dans notre société, d'une façon générale, si nous étions tous vraiment humains, dans ce sens-là. J'ai trouvé chez un d'elles une citation d'Albert Camus qui est au poil. Je ne sais pas si j'ai mis. Ah ben voilà, celle-là j'ai mis. La citation de Camus, c'est « L'homme est la seule créature qui refuse d'accepter ce qu'elle est. » C'est bien ça. Hein. Mon détermin... Alors moi j'ai souvent dit, il y a très longtemps, si ma femme était là, elle me dirait « Ah, c'est le 1%. » Il y a tout notre déterminisme, et puis on a un espace de liberté sur lequel on peut agir. Mais cette liberté, nous on a à l'agrandir pour ne pas être effectivement... Alors il ne faut pas renier notre histoire, notre passé, notre biologie, notre corps, etc. On a besoin de tout ça pour fonctionner, mais on a à le dépasser, à s'en libérer, hein, pour rencontrer l'autre, hein, et pour nous chrétiens, au moins pour ce que je connais, hein, on en parlera tout à l'heure, mais le christianisme, c'est la rencontre d'une personne, c'est pas autre chose. Donc si je ne me suis pas détaché de moi-même, il y a peu de chances que je rencontre autre. Donc, c'est Zindel dit, il y a une promotion humaine à réaliser, et il faut que le niveau de cette promotion humaine soit constant. Hein, c'est un travail à faire sans arrêt. Et moi, je trouve, vous voyez, quand on dit Jésus, homme et vrai Dieu. Bon. Quand il dit renaître, en fait, on se resitue dans la tradition ou dans le grand mouvement de l'humanité, par exemple, le mouvement de l'éducation. Qu'est-ce qu'est le mouvement de l'éducation? On passe quand même une bonne partie de son temps et de son énergie à éduquer au travers de l'éducation nationale, au travers d'un tas de structures, au travers de la famille, à éduquer les enfants. Si c'est pas ça, d'abord éduquer, ça veut dire en latin, éduquere, ça veut dire sortir de soi-même. Donc le boulot d'éducation, apprendre à lire, apprendre les mathématiques, apprendre une langue vivante, partir en voyage, regarder une œuvre d'art, apprécier une musique, rencontrer le divin, moi je ne fais pas de séparation entre tout ça. C'est pour ça que je dis que tout est spirituel. Il n'y a pas de cloison. Si on cloisonne, on est un peu fichu. Alors, malheureusement, on est tous comme ça, on met des barrières. Mais une fois qu'on fait tomber les barrières, c'est ce grand mouvement, d'accord, que nous faisons tous, plus ou moins. Hein, il est plus ou moins abouti. On voit des gens qui, effectivement, acquièrent une liberté, ça se sent, ça se voit, alors Zindel, par exemple, va prendre un autre bouquin qui s'appelle Pierre vivante, qui est un petit peu plus difficile, qui est un peu difficile à lire des fois, où il prend l'exemple de Maximilien Kolb. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, Maximilien Kolb. C'est un prêtre polonais, je crois, qui s'est retrouvé à Auschwitz. Tentative d'évasion à Auschwitz, en représailles, les Allemands prennent des otages, enfin les gens sont déjà dans le camp de concentration, bon. Mais ils prennent des prisonniers, et en représailles, ces prisonniers vont être condamnés à mourir de faim. Alors comme ils n'avaient déjà pas grand-chose à manger, ça veut dire que ça va accélérer la mort. Et une personne qui est là, un père de famille, qui a l'espoir de sûrement continuer sa vie de famille et de retrouver sa famille, ne peut pas supporter cette situation. Et Kolb prend sa place. D'accord? Donc, quand Zindel prend cet exemple-là, ça veut dire que Kolb a été suffisamment libéré de lui-même pour être, entre guillemets, le maître de sa vie et de sa mort. Hein, et d'être capable à ce moment-là, de faire un don. Du reste, la mort, c'est pas... Là, on voit bien que la mort, c'est pas une mort. Donc, vous voyez, le chemin, il est assez long. L'affranchissement qu'on a à faire, il est assez long, mais c'est le boulot de toute une vie. Et Zahadel dit souvent, des fois, ça arrive, des fois, on se dit, tiens, il y a quelqu'un qui est décédé, mais on a l'impression que c'est une humanité qui n'était pas aboutie. Je ne sais pas si vous avez déjà dit ça. Bon, moi, ça m'est... J'ai un copain qui est mort il n'y a pas très longtemps. Avant de dire Zahadel, je m'étais dit ça. Je me dis, voilà, l'impression qu'il n'a pas trouvé ce qui allait l'habiter intérieurement, ce qui allait le faire sortir de lui-même, ce qui allait... Voilà. Donc, c'est à la fois... Ce que je veux dire par là, c'est que c'est à la fois un travail intérieur, c'est un travail personnel, et puis c'est en même temps un travail partagé. Parce que ce qui concerne la personne, c'est aussi ce qui concerne la société, mais ça peut être aussi ce qui concerne ou ce qui pourrait concerner les médias. Voilà. Si on fait référence à une situation qui occupe les gazettes aujourd'hui, par rapport aux propos d'une jeune adolescente, on voit bien qu'on est dans... qu'on est dans une situation de dialogue zéro, où personne se décolle de sa présentation. Voilà. Alors, on parle, mais le fond du problème, il est là. C'est que personne ne s'est décollé de ce qu'il pensait de sa présentation. Alors, point suivant, s'interroger sur la vérité. Bon, parce que si je suis... Donc, je suis dans un mouvement de libération qui va me permettre de rencontrer l'autre. Bon, mais c'est à la fois la tradition chrétienne, c'est la tradition philosophique, mais c'est aussi la tradition de toutes les sagesses de l'humanité, c'est pas spécial au christianisme. Bon. Deuxième chose, s'interroger sur la vérité. Si je suis dépositaire de la vérité, bonsoir, terminé, il n'y a rien. Deuxième phrase, et j'en parlerai pas plus, de l'évangile, toujours dans Saint Jean au chapitre 14. Et Jésus dit, alors, parce que les disciples lui disent, bon, t'es sympa, mais bon, comment faire, comment te suivre, bon, alors, il y a Thomas qui dit, de toute façon, bon, nous, on sait pas où tu vas, bon. Mais Thomas, c'est toujours celui qui a un petit peu du mal de comprendre, de croire, etc. Puis il y en a un autre, je crois que c'est Philippe, c'est un peu l'agnostique du coin, qui dit, oui, ben, t'as qu'à nous donner, montre-nous, montre-nous ton père, je ne sais plus comment il dit ça, puis ça nous suffira, quoi. Voilà, bon. Et le Christ, Jésus dit, donc, je suis le chemin, la vérité, la vie. Bon, alors il dit, le chemin, la vérité, la vie. Bien. Alors, ce qui peut nous aider à comprendre, c'est de dire, de modifier l'ordre de la phrase. Si par exemple, Jésus avait dit, je suis la vérité, il avait commencé par je suis la vérité. Bon. Ben, si je suis... Alors, est-ce que j'ai mis quelque chose là-dessus? Ah non. Si je suis la vérité, bon, je suis plutôt dans l'affirmation d'un dogme, d'une idéologie, d'un fondamentalisme. Alors, tout n'est pas mauvais dans le fondamentalisme, parce qu'on a besoin, effectivement, dans toutes nos traditions, les uns et les autres, de s'intéresser au fondement de ce qui fait notre tradition, sinon on ne peut pas discuter ensemble. Bon, voilà. Et si le Christ ou Jésus avait commencé en disant « Je suis la vie », eh ben on aurait été plutôt dans quelque chose de moral. On aurait pu être dans un système moral. Donc, Jésus ne dit pas « Je suis la vérité, je suis la vie, je suis le chemin », il nous dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Et il nous montre pas la porte, il dit pas, il faut passer par là. Non, il dit, c'est moi. Donc, c'est celui qui vient à ma suite et à ma rencontre, qui va pouvoir rencontrer, alors sortir de lui-même, parce qu'on est toujours bien dans ce mouvement-là, rencontrer Jésus et accéder à la connaissance de Dieu. Puisque dans la religion catholique, nous devons passer par Jésus-Christ pour accéder à Dieu. S'il y a des spécialistes, Je ne pense pas dire d'erreur de ce côté-là. Bon, donc l'originalité du christianisme, hein, c'est plutôt de nous présenter une personne plutôt qu'une doctrine. Le christianisme, c'est pas... Alors, on a pu en faire une doctrine, mais le christianisme, c'est pas une doctrine. Hein. Le christianisme, c'est fondé sur la rencontre d'une personne. Voilà. C'est ça qui est, hein, qui est fondamental. Alors, ça se décrète pas. Hein, ça se fait, je sais pas comment, mais enfin... voilà, je prends une citation d'un jésuite qui s'appelle François Evé, alors qui est actuellement directeur de la revue Études. Alors peut-être que certains utilisent cette revue, c'est une revue qui est éditée par le Centre Sèvres, donc l'université jésuite, et qui dit que la vérité n'est pas une chose que nous possédons, mais, pour nous chrétiens, une personne par qui nous devons nous laisser posséder. C'est là une entreprise sans fin. C'est là une entreprise sans fin. Et ça a été, je crois, une des évolutions importantes au moment du Concile, hein, de se dire que, en fait, le monde auquel on aspire, hein, cette unité du genre humain en Dieu, au final, hein, elle n'est pas maintenant... On est en chemin, on est en route, mais elle n'est pas réalisée. Hein? Et on n'a pas à l'imposer. Hein? Et ce chemin de conversion, il concerne tout un chacun, les chrétiens et les autres qui veulent bien s'associer. Hein? Donc, je ne suis plus, ce faisant, dans une religion qui va dire, je suis... Alors, elle dit un certain nombre de messages, hein, on est bien d'accord. Mais elle n'affirme pas une vérité. La vérité, elle se construit au fil de la découverte de Jésus, de la découverte de Dieu. Quand il dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie », on est bien là-dessus. Donc si on le pose comme ça, les uns et les autres, ça nous permet quand même plus facilement de rentrer en relation, hein, que de dire « Je suis le détenteur de la vérité ». Alors on va dire dans l'Église catholique, il y a des dogmes. Bon. Mais le dogme, qu'est-ce que c'est? C'est à un moment donné, la réflexion de l'Église catholique sur un point particulier. Une citation, là encore, d'un texte du Concile Vatican II, enfin, d'une introduction d'un document, je ne sais plus lequel. Le Concile du Vatican scrute la tradition, la sainte tradition, et la doctrine de l'Église, d'où il tire du neuf, en constant accord avec le vieux. D'accord ? Donc, si on reprenait des déclarations de pape, d'évêque, au siècle dernier, dans les siècles antérieurs, au Moyen-Âge, ou, etc., on serait parfois surpris. Hein. Je me suis amusé, enfin, d'un certain point de vue, c'est pas un amusement, mais à lire des chroniques. J'avais trouvé un bouquin que j'avais acheté quelques centimes. C'était les chroniques écrites au XIIe siècle, ou XIIe siècle, de l'abbaye de... non, c'était pas l'abbaye de Fontenay, de l'abbaye de Vézelay. Donc des moines, un moine qui avait écrit les chroniques de l'abbaye de Vézelay, raconte un peu ce qui se passe, etc. Puis il y a des petites notes, et il y a, alors il y a une note qui enfin, ça ne fait pas mourir de rire, c'est bien, c'est glaçant. Hein. Des propos d'un pape à propos des infidèles, et de la manière dont il faut les traiter. Ciel. Si on avait un pape qui disait ça aujourd'hui, hein, c'est-à-dire faut utiliser tous les moyens expéditifs pour s'en débarrasser. Hein. C'était un petit peu ça et un petit peu plus imagé. Hein. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, ce qu'on dit à un moment donné, hein, la pensée s'approfondit, évolue. Hein. et le voilà. Donc l'Église ne renie pas le fond du message et du dialogue, hein, mais au contraire elle l'approfondit et éventuellement elle va l'adapter aux conditions actuelles. Et voilà, la quête de la vérité est un processus au sein d'une histoire qui n'a pas atteint son terme. Je trouve que cette phrase est bien, bien intéressante. Alors, la deuxième partie, je ne vous embête pas trop, non, ça va? Non? Bon, vous êtes obligé de me supporter encore un petit peu? Alors, il faut que j'accélère, parce qu'on est en train de dépasser. Alors, la deuxième partie, la période conciliaire. Bon. Et ça, c'est extrêmement important. Bon, j'ai noté un certain nombre de points. Hein. Il y a sûrement un élément qui a fortement interrogé l'Église. Hein. Ça a été la question de la Shoah, c'est-à-dire et qui a interrogé la relation des chrétiens avec les juifs. Hein. Voilà. Et de toute l'histoire, la relation souvent malheureuse, hein, entre le christianisme, hein, et le judaïsme. Bon. La deuxième élément important, hein, qui a complètement changé, c'est la sécularisation, qui était peut-être pas aussi avancée il y a 60 ans qu'aujourd'hui, mais c'est la sécularisation de la société. Hein. Bon, grosso modo, en Occident, c'est un mouvement qui s'amorce au XVIe siècle, hein, la sécularisation. On peut considérer que c'est un peu une faillite de l'Église, hein, avec les guerres de religion, hein, où l'Église qui est en charge de la promotion de la paix envoie un message complètement contraire. Hein, et d'où l'interrogation quand même d'un certain nombre de personnes de se dire quelle est cette Église qui en fait suscite plutôt la guerre, etc. Hein, voilà. Donc le mouvement de sécularisation, il s'enclenche. Hein, bon. Le début de la mondialisation, hein, on est au début des années 60, on n'est pas dans la mondialisation comme on la connaît aujourd'hui, hein, c'est la grande période de la décolonisation, hein, pour les pays européens, hein, qui va grosso modo aller jusqu'en 1975, hein, à peu près. Ma femme est en train de faire tout un travail de lecture sur la littérature portugaise. Et alors, découvre, on a beau aller au Portugal, c'est des choses qu'on ne voit pas, la manière dont le Portugal est encore extrêmement marqué, hein, par toute la relation coloniale. Hein, et en fait, c'est relativement récent, puisque la dernière étape de la décolonisation, c'est en 1975, hein, c'est dans les années 70. Mondialisation, etc. La nécessité d'une fraternité universelle, on en reparlera tout à l'heure, hein, bon, amène l'Église à s'ouvrir au dialogue. Hein, ça, c'est... Voilà, il y a toute une réflexion. Alors, il y a des gens qui sont... Alors, évidemment, il y avait des prémices. Hein, ça, c'est pas arrivé comme ça. On n'a pas le temps d'en parler. Il y a un gars qui est... un gars que j'aime bien, c'est Jean 23. Hein, parce que quand on creuse un petit peu, on le trouve toujours dans les bons plans, lui. Hein, bon. Très branché christianisme social, très en phase avec les questions de paix, etc. Et du reste, ça a été une des personnes qui a été à la manœuvre aussi, hein, pour la création de Parti Christi. Bon. Bon. L'encyclique Pacem in Terris, hein, dont, alors, vous savez que les papes, ils aiment bien produire régulièrement des textes plus ou moins longs, dans un langage de pape, hein. Donc il faut, non mais c'est vrai, c'est un langage de pape, hein. J'ai relu, pour préparer ça, le premier encyclique de Paul VI, enfin j'ai pas tout lu, mais une partie, bon, c'est encore plus du langage de pape des fois que Jean 23, hein. Par contre, il y a des gens qui sont étonnamment modernes, par exemple, dans le cadre de Pax Christi, on a été amené à voir, serait intéressé il n'y a pas longtemps sur une déclaration de Benoît XV, donc c'était un pape qui était pape pendant la guerre de 14-18, hein, qui a œuvré pour essayer de faire en sorte que les conflits s'arrêtent. Ça n'a pas été le seul, hein, parce qu'il y a beaucoup de gens qui s'y sont mis. Hein. Et ce texte pour amener les gens à négocier avant de s'exterminer jusqu'au dernier, parce que c'était ça, fallait la victoire à tout prix. Hein. Et alors ça, c'est un texte qui se lit, je trouve, d'une étonnante modernité. C'est pas trop du langage du pape, on peut le prendre aujourd'hui, ça va très bien. Bon, je passe là-dessus. Bien, alors Pace Militaris, bon, c'est une vision positive de l'humanité. Hein. Il y a aussi un élément important au niveau de l'Église, c'est la question de la conscience, et de la reconnaissance de la conscience individuelle de chaque personne. Hein. Voilà. Alors ça ne veut pas dire qu'elle ne le pensait pas, mais ça va avoir des effets parce que cette conscience va amener à la liberté de religion, hein, ce qui a été affirmé par le Concile. Hein. Alors, Pace Militaris. Donc l'objet, Pace Militaris, l'objet du profond désir de l'humanité, c'est la, pour tous les temps, c'est la paix. Et la première fois que, dans un document de ce type, on entendait un discours positif sur le progrès des consciences. Et souvent les papes, ils disent toujours, oh, ça va pas bien, l'individualisme, le machin, etc. Les hommes de notre temps, c'est Jean 23 qui parle, hein, ont acquis une conscience plus vive de leur dignité. Hein. Ça a l'air bête, mais c'est... Il y a 60 ans, c'est quand même pas inintéressant de dire ça. Deuxième élément important, alors Pace Militaris, c'est encore une encyclique qu'on peut lire aujourd'hui et qui est d'actualité. Il y a des encycliques qui sont plus centrées sur un sujet qui n'est plus forcément d'actualité après. Hein. Bon. Alors, une déclaration du Concile qui est Nostra Aetate. Et Nostra Aetate, c'est ce qui va instituer pour la première fois dans l'Église, d'une façon officielle, les relations avec les religions non chrétiennes. Voilà. Alors, l'entrée, c'est la relation avec le judaïsme. Mais tout de suite, ça va s'étendre, hein, la réflexion va s'étendre. Bon, voilà. Quelle date? 28 octobre 1965. Hein. Alors, Nostra Aetate, c'est un texte assez court. Tout ça, c'est disponible, on peut l'avoir sans problème. Vous allez, c'est en français, sur le site du Vatican, par exemple, vous avez tous les textes. Hein. Bon. Une citation, l'Église catholique ne rejette rien de ce qui est vrai et sain dans les religions. Elle considère avec respect ses manières d'agir et de vivre, ses règles et ses doctrines des autres religions. On ne va pas refaire l'histoire, mais c'est quand même un changement de position qui est quand même important. Hein? Voilà. Je passe parce que je ne développe pas trop. Une autre déclaration, hein, déclaration sur la liberté religieuse, qui n'était pas forcément ce qu'on avait dit dans le syllabus au XIXe siècle. 7 décembre, si vous voulez la date, 1965. La personne humaine a droit à la liberté religieuse. Et là, son fondement dans la dignité de la personne humaine, telle que l'on fait connaître la parole de Dieu et la raison elle-même. Bon, très développé, mais voilà. Hein, on a quand même des choses assez lourdes. Et puis, enfin, pour ça que j'ai parlé de Paul VI tout à l'heure, la première encyclique de Paul VI, Ecclesiam Suam, 6 septembre 1964, que la traduction, ça veut dire son Église. Je prends une citation. Nous ne voulons pas refuser de reconnaître avec respect les valeurs spirituelles et morales des différentes confessions religieuses non chrétiennes. Nous voulons avec elles promouvoir et défendre les idéaux que nous pouvons avoir en commun dans le domaine de la liberté religieuse, de la fraternité humaine, de la culture, de la bienfaisance sociale, de l'ordre civil. Quand je disais tout à l'heure, la transcendance, c'est ça. Hein, c'est qu'est-ce qu'on peut se représenter en commun et qu'on peut faire en commun. Alors, je ne l'ai pas rajouté là-dessus. Et il y a un élément que j'ai pas mis, c'est pour ça que je disais que ça s'est passé il y a juste un an, le 4 février 2019 à Abu Dhabi, document sur la fraternité humaine, un document signé du pape François et du grand, que je ne dis pas d'erreur, du grand imam d'Al-Azhar, Ahmad Al-Tayeb. Je vous invite, si vous ne le connaissez pas, là encore, vous, sur Internet, vous le trouvez comme vous voulez, à lire ce texte. Car, s'il n'y avait pas eu tout ce que je vous ai dit avant, il n'y a pas ça. Pour les chrétiens. Ça veut dire que tout le monde a fait le chemin. Hein. Il n'y a pas que les chrétiens qui ont fait ce chemin-là. Hein. Tout le monde a fait ce chemin. Comment est-ce qu'on peut ensemble, se reconnaissant enfant de Dieu, construire une cité fraternelle? J'ai pas le temps de développer le propos, hein, mais c'est qui peut dire ça aujourd'hui? Qui dans le monde peut dire ça aujourd'hui? D'accord? Bon. Mais tout ça s'est précédé. Voilà, il y a tous les jalons qui ont été posés, hein, il n'y aurait pas eu, pour les chrétiens, le concile, il n'y aurait pas eu cette évolution de la position. D'accord ? Voilà. Hein, donc, vous voyez, quand on parle du dialogue, alors, et moi je ne suis pas que dans le dialogue inter-religieux, interculturel, etc. Hein, mais comme j'étais un peu de mon perchoir de chrétiens, j'ai compris ici, donc j'ai quand même un peu développé cet aspect-là. Mais c'est extrêmement fondamental. Et moi, je vous invite ce soir, avant de vous coucher, hein, bon, d'aller sur Internet, de lire ce texte aussi très, très facilement, et je dirais d'un certain côté, c'est bluffant, quoi. Hein. Et punaise, heureusement qu'aujourd'hui, on est capable de dire que les uns et les autres, hein, on peut se rencontrer, on peut bosser ensemble, il y a plein de choses à moudre, hein, ensemble. Voilà. Alors bon, évidemment, là, il faut que j'arrête, hein, parce que j'avais une heure, j'ai déjà dépassé. Non ? Disons, moins le quart, moins dix.
Après, c'est plus fou, si vous voulez, vous avez dit, parce qu'on a besoin d'un petit temps de dialogue.
Bon, ben, bon, voilà, je vais rapidement. Voilà. Bon. Alors, je ne vais pas faire un cours sur la pensée sociale de l'Église, hein, mais ça vous dit quelque chose, la pensée sociale de l'Église? Oui, ça vous... Ah oui, non, parce que des fois, l'autre fois, ils ont parlé à table avec des gens très chrétiens, cathos, etc. Bon. Alors, ils me disent, oh, des fois, c'est pas bien considéré, la pensée sociale de l'Église. Hein, bon, voilà. Mais il y a certains... Pas à Belfort, évidemment, hein, pas à Belfort, bon, c'est sûr, hein, mais moi je suis pas parisien, mais enfin je suis quand même assez souvent à Paris, etc., mais on me dit, il y a quand même des milieux catholiques ou certaines paroisses à Paris où, bon, ben, la pensée sociale de l'Église, ça passe pas bien, quoi, enfin, c'est le mot social un peu qui dérange, comprenez, bon, voilà, bien, bon, c'est un outil extrêmement puissant. C'est pas une doctrine, parce qu'on dit la doctrine sociale de l'Église, c'est pas une doctrine, hein. C'est plutôt un outil pour analyser la situation et de voir comment on peut s'engager. Hein, et comment est-ce qu'on peut aménager notre fonctionnement. Moi, quand je bossais avec les chefs d'établissement, quand je les ai branchés sur la doctrine sociale de l'Église, la première fois, ils m'ont dit « Écoute, on n'a rien compris. » Bon. Alors, je me suis dit « Mes petits gars, je ne vais pas vous lâcher. Hein. » L'année d'après, on a fait du plus concret et on l'a, au lieu de faire un discours, des principes, le machin, les trucs, bon, on a utilisé les outils pour analyser leur pilotage d'établissement. Comment est-ce que, avec les principes de la doctrine sociale de l'Église, la dignité des personnes, la subsidiarité, la participation, la solidarité, etc., comment est-ce que je gère le pilotage de mon établissement? Alors là, tout le monde comprend la doctrine sociale de l'Église. Hein, ça marche bien. Bon, voilà. Mais c'est des choses qu'on peut tous partager. Hein. Quand je disais tout à l'heure, l'organisme dont je suis président, c'est évident que je pense à la doctrine sociale. Hein. Dans la question, comment est-ce qu'on organise la communication, comment est-ce qu'on organise le dialogue, qu'est-ce qu'on veut générer comme type de relation entre les personnes, etc. Hein. C'est pas, on ne veut pas leur faire faire des choses qu'ils ne veulent pas faire. Hein. Mais voilà, qu'est-ce qu'on veut créer comme climat à l'intérieur de l'entreprise, etc. Alors, je passe. Je vous avais fait tout un petit topo. Les grands principes, dignité, bien commun, destination universelle des biens, subsidiarité, participation, solidarité. Là encore, certains connaissent ce bouquin. Alors là encore, c'est du langage d'église, hein, punaise. Des fois, je me dis, on pourrait en faire 100 pages de moins, hein, ça irait tout aussi. Ça ne veut pas dire que c'est pas bien, je critique pas tout ce qui est écrit, hein, mais c'est la façon de le dire. Bon. Alors, ça fait pas tout ça, parce qu'il y a la moitié, c'est des notes, hein, et des, bon, voilà. Mais, et ça coûte 25 euros, donc c'est pas très cher. Voilà. Donc, si vous voulez, l'Église, hein, donc, on a défini communication, dialogue. Comment est-ce qu'on peut être, comment est-ce qu'on peut dialoguer? Les choses importantes, hein, c'est comment on se décolle un petit peu de toutes nos adhérences, hein. La question de la vérité. Comment est-ce qu'on pose la question de la vérité? Est-ce que je suis dépositaire de cette vérité? Ou est-ce que la vérité, c'est quelque chose qui se construit dans le dialogue, soit avec le divin, ou dans le dialogue avec les gens avec qui je bosse? Hein, c'est un peu ça. Bon. Les ouvertures de l'Église, hein, qui font que ben on peut être là ce soir et que on est ravi que de ce qui s'est passé à Abu Dhabi il y a un an, et du reste, il y avait dans les Émirats Arabes Unis, le 4 février de cette année, je ne sais pas si vous avez vu ça dans la presse, il y avait une fête de la tolérance qui était organisée. Voilà. Et j'ai lu que sur une île allait être construite une mosquée, une église et une synagogue. Voilà. Bon. On peut dire aussi que ce 4 février à Rome, donc avant-hier, se sont retrouvés des représentants des droites extrêmes et de l'extrême droite européenne, il y avait des Français, il y avait etc., qui rêvent d'un christianisme identitaire, hein, c'est-à-dire que c'est une religion sans foi, hein, mais ils essayent de se raccrocher à quelque chose. Alors il y en a qui essayent de promouvoir, hein, mais dans notre société, il y a toujours les deux mouvements, hein, il y a ceux qui développent, etc. Puis vous avez toujours la force qui essaye de démonter de l'autre côté. On a toujours un peu fait. Je ferme la parenthèse. Alors, oui, ben on passe. Bon, voilà. Alors, un mot, je ne vais pas tout dire, hein, sur Pax Christi. Bon. Pax Christi, c'est le début, c'est la réconciliation franco-allemande. Hein. Alors là encore, c'est une sacrée histoire, parce que ça commence tout ce qui s'est passé dans l'entre-deux-guerres, hein, avec le mouvement du Sillon, par exemple, en France, Marc Sanguier, etc. Bon. Tout ce qui s'est passé pendant la guerre de 14, tout ce qui s'est passé avant la guerre de 14, hein, et à la fin du 19e siècle, il y a eu des gens qui ont été les promoteurs de cette réconciliation franco-allemande. Hein. Et ceux qui ne se sont pas fait zigouiller pendant la Seconde Guerre mondiale, Ben, on les a retrouvés à la sortie, hein, et ça a été des gens qui ont été, entre autres, hein, à l'origine de cette réconciliation franco-allemande. Hein. C'est une histoire extrêmement intéressante, mais on n'a pas le temps de rentrer dedans. Bon, après, le mouvement s'internationalise, donc présent sur les cinq continents, hein, donc c'est bien, c'est un mouvement catholique, hein, on m'a posé la question à table tout à l'heure, c'était œcuménique, non, c'est un mouvement catholique. Alors, on travaille en relation avec beaucoup de gens, parce qu'on ne peut pas travailler tout seul dans notre coin, hein. Je passe. Voilà. Et donc, bon, il y a trois fonctions inséparables, hein, dans Pax, hein, c'est prier, étudier, agir. Et l'étude, c'est important. Mais l'étude, c'est aussi ce qui se permet de, comme on disait tout à l'heure, de sortir de soi-même et de sortir de ses représentations et de ses schémas. Hein. Bon, voilà. Voilà. Et il y a cinq domaines de travail dans Pax Christi. Dialogue et éducation à la paix. Je m'occupe de cette commission. Défense de la création et de l'environnement. Désarmement des fonds de sécurité. Donc, par exemple, là, on a un petit groupe qui est très investi sur le désarmement nucléaire. Il y a une convention, hein, au niveau de l'ONU, là, qui est signée par un nombre. On a été assez moteurs là-dedans et acteurs. Pas que nous, bien entendu, mais qui est signée par pas mal de pays aujourd'hui, sauf les puissances nucléaires actuelles. On se demande pourquoi. Bon. Les droits de l'homme et le développement solitaire. Alors, nous ne sommes pas des spécialistes de toutes ces parties-là, parce qu'il y a d'autres associations qui s'en occupent. Hein. Mais vous comprenez bien que la question de la paix ne peut pas se voir que par un bout de la lorgnette. Hein. Une société apaisée, hein, c'est une société où les rapports sociaux sont équilibrés, où il y a une répartition correcte des revenus, où les droits des personnes sont respectés, etc., etc. Hein. J'ai pas eu le temps de rentrer là-dedans, mais c'est extrêmement important. Je passe sur Pax Christi. J'avais pris deux phrases pour la conclusion, intéressantes. Alors, une phrase de Pierre Clavery, qui a été un évêque d'Oran, qui a été assassiné en 1998, je crois. Le prix du dialogue est très élevé. Alors, bon, il savait, il est né en Algérie, etc. Il connaissait parfaitement tout. Hein. Il était très en relation, hein. Avec beaucoup de musulmans. Le prix du dialogue est très élevé puisqu'il suppose qu'on sorte de soi pour vivre ensemble. Bon. Mais c'est possible. Donc j'ai repris le document conjointement signé par le grand imam et le pape. Au nom de Dieu, Al-Azhar al-Sharif, avec les musulmans d'Orient et d'Occident. Conjointement avec l'Église catholique, les catholiques d'Orient et d'Occident, déclare adopter la culture du dialogue comme chemin, la collaboration commune comme conduite, la connaissance réciproque comme méthode et critère. Donc c'est difficile, le dialogue, mais on peut le faire, on peut s'y coller, et on voit que là, ça produit quand même des sacrés fruits. Merci pour votre attention.